Bonjour à chacun. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour pouvoir annoncer la parole du Seigneur, pouvoir la commenter, pouvoir réfléchir aussi dans cette situation particulière de confinement dans laquelle nous sommes ce matin. C'est un temps spécial, un temps aussi où dans les familles, nous nous retrouvons davantage les uns avec les autres, ce qui peut générer davantage aussi de difficultés, de cohabitation, le fait de bien s'entendre entre les parents, avec les enfants. Et le thème de ce matin, je pense, peut faire écho aussi à cette période particulière que nous vivons. Ça ne concerne pas que les familles. La question des limites que j'aimerais aborder ce matin avec vous concerne vraiment notre quotidien, notre vie de tous les jours. Vous avez certainement déjà été un jour dans un magasin de jouets par exemple, et vous avez vu là une maman qui peinait avec son enfant, qui criait tout ce qu'il pouvait parce qu'il voulait absolument cet objet-là et ce jouet-là. Et la maman cherchait désespérément à faire taire son enfant qui commençait de plus en plus à hurler, et plus la maman dit non, mais pas cet objet-là. Alors l'enfant dit non, mais alors je veux cet autre objet. Et puis la maman ne sait plus que faire, désespérée, voyant que tout le monde dans le magasin commence à la regarder. Elle cherche à trouver une conciliation et elle dit bon, ben, cette fois, c'est la dernière fois, je te donne ce jouet, mais ce ne sera plus jamais comme ça à la maison, je vais te dire mes quatre vérités. Et puis il ne faut plus que ça se passe comme ça. Sauf que cette maman n'a pas su gérer la situation. L'enfant s'est calmé parce qu'elle lui a acheté finalement le jouet. L'enfant a eu raison. Mais la prochaine fois, tout le monde le sait bien, ça va recommencer. La maman pensait non, non pour offrir ce jouet. Elle a formulé un non qui finalement s'est transformé en oui quand même. C'est le oui qui l'a emporté. Le oui parce qu'elle avait peur, peur du regard des autres. Peur peut-être de décevoir son enfant, peur de perdre son amour. Elle a voulu bien faire. Et chaque fois, elle retombe dans les mêmes ornières. Elle n'arrive pas à s'affirmer face à son enfant de 6 ans qui déjà fait la loi à la maison. Alors elle se console, elle se dit que tout cela, elle le fait par amour pour lui et que finalement, un jour, elle va le récupérer. A-t-elle raison ? On va essayer d'entrer dans ces questions de limites ce matin. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Et puis on trouve une parole similaire dans l'épître de Jacques, et Jacques sans doute connaissait cette parole qui se trouve dans Matthieu. Il dit « Que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. » Notre parole nous engage. Un oui, c'est un oui et ce n'est pas un non. Cette parole, n'importe quelle parole, nous la prononçons devant Dieu qui sait, qui entend et qui voit. Il est important que notre parole soit vraie, qu'elle soit concomitante avec nos pensées, que ce que nous affirmions soit en cohérence avec qui nous sommes. J'ai souvent rencontré dans mon ministère pastoral des personnes qui avaient de la peine à savoir quand elles étaient en droit de dire non ou quand elles étaient en droit de dire oui. Je vais vous prendre un exemple d'une personne fictive, Julia, qui est un peu un condensé de différentes situations que j'ai pu rencontrer. Julia a grandi dans un environnement qui était autoritaire. Elle avait été recueillie par son oncle, qui était un militaire, un colonel à l'armée, et puis à la maison, il fallait toujours qu'elle obéisse. Il fallait qu'elle dise oui quand son oncle lui demandait quelque chose, qui était son éducateur, et si elle se hasardait à penser autre chose et à agir autrement, alors gare à elle. Ça devenait la catastrophe. En tant que chrétien, il faut avoir l'amour du prochain. La bonne marque du chrétien, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Il faut qu'on puisse se rendre utile. Et chaque fois qu'on peut le faire, ben, il faut le faire. Alors à ce travail, elle a mis un point d'honneur à toujours faire ce qu'on lui demandait, à être serviable, cordiable, à rendre tous les services qu'elle pouvait. Un soir, elle devait rentrer à la maison. Son fils l'attendait. Mais juste avant qu'elle ne parte, son chef vient avec une pile de courriers. Et puis il lui demande si elle ne peut pas encore traiter ses courriers avant demain matin parce qu'il a un rendez-vous urgent, une séance, et il faut que ces choses soient réglées avant cela. Elle est bonne chrétienne, elle ne peut pas refuser. Donc comme à son habitude, elle veut se rendre utile, elle prend la pile de courriers à la maison. Il se fait tard ce soir, elle a couché son fils, elle doit encore passer 3 heures à exécuter ce travail pour son chef. Le week-end arrive, elle est fatiguée. Mais sa voisine, toujours la même, vous savez, celle qui est un peu pénible, celle qui ne nous lâche plus, celle qui a toujours encore une histoire à raconter, eh bien cette voisine, elle vient lui demander si elle ne pourrait pas la dépanner sur une histoire administrative. Elle est fatiguée. Mais est-ce qu'un chrétien ne doit pas toujours aimer tout le monde, même les gens les plus pénibles? Et c'est peut-être même ceux-là pour lesquels le Seigneur nous demande de porter notre croix. Alors, elle se dit que même si elle n'a pas le temps et qu'elle est fatiguée, il faut qu'elle rende service. Elle dit, mais bien sûr, ma chère voisine, je vais vous rendre service. Ses collègues de travail, voyant qu'elle avait bon dos, ont commencé à ricaner à son sujet. Ils l'ont dénigrée sur son origine étrangère. Ils lui ont fait des remarques désobligeantes sur son apparence. Elle n'a pas su comment réagir. Elle était démunie. Elle était déstabilisée, comme pétrifiée. Alors, elle a simplement souri et puis elle a continué à servir la clientèle. Au fond d'elle-même, cette histoire l'a quand même meurtrie. Et la situation s'est progressivement dégradée avec ses collègues parce qu'ils ont su qu'ils pouvaient en rajouter et que jamais elle ne réagirait. À la maison, son fils devenait de plus en plus impossible à vivre. Elle était seule pour l'éduquer, mais c'est lui qui, du haut de ses 5 ans ou 6 ans, était le chef de la famille. Et elle n'avait pas le cœur de lui dire non. C'était déjà tellement difficile au travail qu'elle ne voulait pas encore faire la police à la maison. Et puis elle avait elle-même tellement souffert dans son enfance qu'elle ne voulait pas que son fils doive endurer la même chose. Alors elle finissait toujours par céder. Les journées étaient harassantes. Un jour, pour la énième fois, son chef vient vers elle. Oh, ça doit bien être la 10e, la 15e fois depuis le début de l'année. L'année vient de commencer. Il vient vers elle et lui dit, mais écoutez, Julia, vous êtes tellement magnifique, tellement bonne. On peut vous confier des choses. Vous êtes la fidèle. On peut compter sur vous. Vous êtes une personne remarquable. Voyez, j'ai encore cette pile de courrier. Vous pourriez me faire ça pour demain matin? Et elle prend la pile de courrier une fois de plus. Mais elle maugrait dans son cœur. Il y a quelques noms d'oiseaux qui lui viennent à l'esprit. Et puis, elle arrive à la maison, elle se culpabilise, elle dit, mais comment moi, qui veux être une bonne chrétienne, qui veux suivre le Seigneur, comment je peux avoir de telles pensées négatives qui me viennent à l'esprit? Seigneur, pardonne-moi mon égoïsme. Aide-moi à être plus serviable. Aide-moi à renoncer à moi-même pour vraiment pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Mais à peine a-t-elle fini cette prière qu'il y a une petite pensée bizarre qui lui vient à l'esprit. Elle se dit, mais est-ce que mon chef est vraiment quelqu'un qui a besoin que je lui sacrifie toute ma vie? Et elle commence à douter de sa manière de réagir. Cette histoire vous rappelle peut-être des histoires familières ou fait peut-être écho à des situations que vous avez vous-même vécues. Julia a un problème avec les limites. Elle ne sait pas exactement quand commence l'amour du prochain ou quand il se termine. Elle ne sait pas exactement où commence sa vie privée et où elle se termine. Elle cherche vraiment à faire du mieux qu'elle peut. Elle cherche à contenter tout le monde, son fils, son chef, ses collègues, sa voisine, Dieu. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans son histoire. Elle devient frustrée, fragile, fatiguée. Elle a le sentiment que sa vie lui échappe. Alors elle essaye toutes sortes de stratégies dans sa vie. Elle cherche à travailler davantage pour obtenir l'assentiment des autres. Mais elle voit que ça ne marche pas. Elle voudrait vivre des relations harmonieuses avec tout le monde et donc elle cherche à contenter tout le monde. Elle ne veut pas les décevoir, mais cela ne marche pas non plus. Elle cherche à prendre des responsabilités pour décharger les autres. Elle le fait à la place des autres et elle voit que ce n'est pas une option efficace. Et maintenant, elle commence à avoir des sentiments de culpabilité parce qu'elle a une forme d'ambivalence en elle. Quand elle dit oui, elle pense au fond non. Elle se dit que ça ne va pas. Sa vie se dégrade, les autres portent atteinte à sa sphère privée, à sa dignité. À la maison, elle voit bien que la place qu'elle donne à son fils, c'est problématique. La maîtresse vient d'ailleurs de l'appeler il n'y a pas longtemps pour lui dire que ça ne va plus non plus en classe, que son fils en fait qu'à sa tête, qu'il ne veut pas obéir aux ordres ou simplement aux règles générales. Et elle ne sait plus comment faire. C'est le désespoir. Beaucoup de chrétiens peuvent se retrouver dans des situations similaires. Ils sont sincèrement consacrés à Dieu. Et pourtant, ils se retrouvent en difficulté dans leur vie quotidienne. Ils ont beaucoup de mal à distinguer ce qui relève de leur responsabilité et puis ce qui n'est pas de leur ressort. En fait, ils ont un problème de limite. C'est quoi une limite ? Une limite dans la nature, c'est ce qui permet de distinguer deux éléments, deux choses de nature différente. Vous avez, par exemple, la propriété d'un terrain, vous avez un voisin, eh bien, il y a une limite qui sépare votre terrain du voisin. Et chacun a son terrain. Mais si votre voisin vient sans cesse chez vous, en passant par la clôture, eh bien, il empiète sur votre territoire. Le problème, c'est que si vous avez même créé une ouverture dans le jardin qui lui permet d'entrer et que vous ne lui dites jamais que c'est votre terrain, il ne va pas modifier son comportement. Il va franchir des limites en venant sur ce qui vous appartient, ce qui est votre domaine, votre vie, et il va prendre une place à laquelle il n'a pas droit. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est que la personne n'a pas défendu son territoire. Elle n'a pas mis des limites claires. Elle n'a pas dit que ce n'était pas possible d'entrer. Je peux imaginer qu'à ce stade, vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais est-ce qu'un chrétien a vraiment le droit de poser des limites ? Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme ? Est-ce que c'est compatible avec l'amour du prochain de dire toujours non ?» Et puis, qu'est-ce que je dois répondre à quelqu'un qui me demande du temps, de l'amour, de l'énergie, de l'argent ? Est-ce que parce que je suis chrétien, je dois toujours accepter ? Qu'est-ce que je dois faire si je dis non et que je suis envahi d'un sentiment de culpabilité parce que j'ai dit non ? Pour essayer de répondre à ces questions, j'aimerais faire avec vous un parcours biblique. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut repérer dans l'Écriture et qui nous aident à réfléchir. Quand nous ne connaissons pas les textes de l'Écriture, eh bien nous ne pouvons pas agir en conformité avec ceux-là. Quand on ne connaît pas ce que Dieu veut ou qu'on le connaît mal, on risque d'arriver dans des impasses. Et l'exemple de Julia nous montre qu'elle est une chrétienne qui veut suivre Dieu, mais elle arrive quand même dans des impasses. Les impasses peuvent être parfois graves. Il peut y avoir des conséquences comme la dépression, des angoisses, comme la boulimie ou l'anorexie. Il peut y avoir des dépendances qui s'installent, il peut y avoir des comportements compulsifs, il peut y avoir de la fausse culpabilité, de la honte, des difficultés conjugales, des difficultés avec les enfants. Vous voyez que ce n'est pas anodin, ces questions-là. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire sur la question des limites ? Première chose que j'aimerais affirmer, c'est que Dieu n'aime pas le mélange et la confusion. Il a établi, par exemple, une limite très claire entre lui et sa création. Il n'y a aucune parcelle de divinité dans la création. Il n'y a pas de confusion entre Dieu et sa création. Dieu est un être distinct, quelqu'un qui est responsable pour lui-même. Il pense, il dit ce qu'il pense, il ressent des choses et il se permet de l'exprimer. Il refuse, il admet, il aime. C'est un être qui est parfaitement responsable et qui sait comment doit réagir un être responsable. En Dieu lui-même, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'entre le Père, le Fils et l'Esprit, entre ces trois personnes, chacune possède la même nature divine. Chacune leur personne. Elles ont chacune une mission aussi qui leur est propre. Il n'y a pas de confusion. Tout est parfaitement clair entre elles. Et elles arrivent à s'aimer parfaitement. Et le problème de l'absence de limite, c'est que cela met une barrière, une difficulté à aimer en vérité. Donc Dieu nous offre en lui et dans ce qu'il a fait, le modèle finalement de ce que nous pourrions vivre et de ce que nous devrions vivre. Quand on regarde comment Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec des limites. Tout au début, dans le texte de la Genèse, on voit qu'il a séparé la lumière des ténèbres. Et il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et Dieu a distingué les animaux, chacun selon son espèce. Et puis il a distingué l'homme et la femme. Il n'a créé aucune confusion entre les genres. L'homme et la femme étaient tous les deux à la ressemblance de Dieu. Et ils n'étaient pas Dieu. Ils étaient à l'image de Dieu, dans ce sens qu'ils étaient des êtres distincts, comme le Père et le Fils sont distincts. Il n'y avait aucune confusion, aucun mélange. Si on va maintenant voir dans le monde spirituel, on se rend compte que là aussi, Dieu a établi des limites claires. Dieu s'oppose au péché. Il exclut tout mélange entre le bien et le mal. Dans le monde de Dieu, nous ne sommes pas dans un monde fermé. Dieu accepte qu'on puisse entrer dans son monde, mais avec les normes et les valeurs qui sont les siennes. On peut entrer dans le monde de Dieu. Par contre, Dieu garde son monde à lui, son royaume, fermé à tout ce qui est de l'ordre du mal, à tout ce qui pourrait corrompre son monde à lui. Quand Dieu dit « oui », c'est un vrai oui. Quand il dit non, c'est un vrai non. Le Seigneur aimerait de même qu'on puisse être responsable de nos paroles, de nos actes, de ce que nous faisons. Parce qu'un jour, on devra tous rendre compte de notre vie. On ne pourra pas dire, mais c'était la faute de ma femme, c'était la faute de mon chef ou c'était la faute de mon chien. Nous sommes chacun responsables de ce que nous sommes et de ce que nous faisons de notre vie. Par contre, il faut comprendre clairement que nous ne sommes pas responsables de la vie des autres. La Bible nous appelle à aimer notre prochain, mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre la place du prochain dans ses responsabilités. Nous ne devons pas porter la responsabilité de la vie des autres. On peut voir ça, par exemple, dans Galates, chapitre 6. Quand Paul dit au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Donc, il y a bien une invitation à s'entraider, à aider celui qui n'y arrive plus. Mais au verset 5, Paul ajoute, « Chacun portera sa propre responsabilité. » Chacun portera sa propre responsabilité. Si vous voulez, l'amour de mon prochain peut m'amener à un amour sacrificiel. Il est tout à fait juste d'aider quelqu'un qui ne s'en sort pas parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même. Et quand quelqu'un ne peut pas faire la chose par lui-même, avec ses propres forces, on peut l'aider. Et il est juste de l'aider. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il est venu mourir sur la croix. En sacrifice pour nous, il a fait quelque chose que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Mais Jésus n'est jamais venu pour nous enlever notre responsabilité. Chacun est responsable des choix qu'il fait dans sa vie. Chacun a des responsabilités qu'il est tout seul à pouvoir assumer. Il y a des choses que personne de les faire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, par exemple, tout le monde de mes émotions, c'est à moi de le gérer. Christ ne va pas gérer mes émotions à ma place. Notre tendance naturelle, c'est de rejeter la faute sur les autres. Si j'ai un problème, si j'ai une émotion qui surgit, si je suis en colère, c'est la faute de l'autre. C'est l'autre qui m'a conduit à cela. Mais l'émotion est quelque chose qui m'appartient. C'est à moi de la gérer. Et je ne peux pas rendre les autres coupables de la manière dont je gère mes émotions. C'est la même chose pour mes attitudes, pour mes comportements. C'est à moi de les gérer. Je ne peux pas rendre les autres responsables. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, qui peut demander le travail de toute une vie, d'apprendre à être responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on vit comme émotion, de la manière dont on les gère. Et de la personne n'est appelé à porter le poids des autres. Mais il y a parfois des situations où notre fardeau est tellement lourd que si on était seul à le porter, ce sac à dos que nous aurions nous casserait le dos. Et quand nous sommes dans des situations comme celle-là, quand le fardeau est trop lourd parce qu'il y a pu y avoir des tragédies dans la vie, à ce moment-là, nous avons besoin des autres. C'est des choses que nous ne pouvons plus gérer tout seuls. Et c'est là que Dieu intervient. Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons un sac à dos qui soit impossible à porter. Et là, il permet que nous ayons autour de nous des gens qui peuvent venir à notre aide. Mais c'est seulement là, pas dans la vie de tous les jours, pas pour ce qui me concerne. Ma vie intérieure, c'est à moi de la gérer. Ça nous amène à nous poser une question, c'est finalement comment poser une limite entre ce qui est à moi, ce qui est de ma propre responsabilité, et puis ce qui appartient à la responsabilité de l'autre. Comment est-ce que je marque mes limites ? La première manière et la plus simple pour marquer une limite, ce sont les mots. Et le mot le plus simple, c'est non. Quelqu'un me demande quelque chose que je ne veux pas ? Si je veux marquer ma limite, me respecter, et en me respectant, je respecte l'autre aussi, je dois dire non. C'est le mot le plus clair. C'est le premier mot qu'apprend un enfant. Un petit enfant, dans son vocabulaire, après avoir dit papa, maman, il apprend non. Et s'il n'a jamais appris à dire non parce qu'on lui a refusé cette possibilité de dire non, il sera en grande difficulté dans sa vie plus tard. Dire non à quelqu'un, ce n'est pas lui refuser mon amitié ou lui refuser mon amour. De dire à quelqu'un, non, ton comportement n'est pas juste et moi je ne veux pas m'y associer, ce n'est pas manquer d'amour. C'est marquer une saine limite. Dans mon territoire, quand quelqu'un veut exercer une pression qui n'est pas juste sur moi, quand on me pousse à me conformer aux attentes des autres. Mais parfois, le vocabulaire, les mots, les paroles ne suffisent pas. Parfois, au-delà du non, il faut pouvoir prendre de la distance. Il faut s'éloigner de la personne physiquement, au moins momentanément. Il faut parfois savoir se protéger du désordre que l'autre peut amener dans ma vie parce qu'il produit du mal dans ma vie. Il m'entraîne peut-être aussi à faire du mal. C'est le cas de toutes les situations où il y a eu de l'abus et où on a besoin d'une distance, où la victime a besoin d'une distance pour pouvoir se reconstruire. C'est peut-être le cas aussi si nous avons des parents qui prennent trop d'emprise sur nous. C'est notamment le cas quand on passe à l'état adulte, que l'on quitte l'enfance pour devenir adulte. L'enfant devient un vis-à-vis de son parent et son parent ne peut plus lui dicter les normes de sa conduite. Il y a un réajustement qui doit se faire. Le jeune adulte doit devenir un adulte à part entière. Ce n'est pas faire montre de manque d'amour vis-à-vis de ses parents que de s'affirmer, que de dire « Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, papa, ou pas avec toi, maman. J'entends ton conseil, mais je vais faire autrement. Je vais faire mon choix. J'assumerai les conséquences de mon choix. Je suis devenu adulte. » Parfois, il faut s'éloigner de ses parents un moment même pour que ce réajustement puisse se faire. Quand on n'a pas appris dans son jeune âge à poser des limites claires et saines, ça peut devenir compliqué en tant qu'adulte. Mais ça reste possible. Pour cela, il faut parfois se faire aider de la part d'autres personnes. Je pense, par exemple, au conjoint d'un alcoolique. Souvent, ce conjoint a de la peine à fixer de bonnes limites et à dire « stop » à celui qui est dans la dépendance. Il a de la peine à se protéger, même si son conjoint qui boit est violent. Pourquoi a-t-il de la peine? Parce qu'il a peur de perdre cette relation et de se retrouver tout seul. Mais finalement, s'il a l'aide d'autres personnes autour de lui, il va pouvoir se dire que autour de lui, il y a d'autres personnes qui peuvent lui procurer de l'amour, qui peuvent lui procurer de la sécurité, et ça va lui permettre de prendre de la distance avec son conjoint qui est violent et à poser des limites beaucoup plus saines dans sa vie. Les autres, si vous voulez, sont là pour nous aider à prendre conscience de ce qui ne va pas. Un certain nombre de chrétiens ont pu recevoir un enseignement comme quoi on ne devrait pas mettre de limites. On devrait toujours dire oui dans la vie. Je ne crois pas que ce soit la pensée du Christ. Et pour cela, notre pensée doit être réformée. Il faut pouvoir, avec l'aide d'autres personnes, si nous avons été dans des situations difficiles tout au long de notre vie, si nous n'avons pas su fixer des limites, il nous faut l'aide d'autres pour pouvoir comprendre comment mettre des barrières qui soient saines. Je prends encore un exemple. Henry Clou et John Townsend, qui sont deux thérapeutes, ont écrit un livre qui porte le titre « Oser s'affirmer ». Et un jour, ils racontent que des parents sont venus chez l'un de ces deux thérapeutes pour demander de soigner leur fils. Et le thérapeute dit « Mais où est-il votre fils? Vous venez, mais il n'est pas là. » « Oh, il n'a pas voulu venir. » « Mais pourquoi ?»« Oh, mais il pense qu'il n'a pas de problème. » Le thérapeute leur dit « Mais peut-être qu'il a raison. » Les parents sont un peu interloqués et puis le thérapeute dit « Mais parlez-moi un peu de votre fils, j'aimerais en savoir plus. » Alors les parents commencent à raconter une interminable suite de difficultés qui sont apparues, mais dès le plus jeune âge de l'enfant. Ils disent « Mais notre fils n'a jamais été capable de grand-chose. » Et il a commencé maintenant à consommer de la drogue, de l'alcool. Il se trouve en situation d'échec scolaire, en situation d'échec professionnel. Et le thérapeute voit bien que les parents aiment leur fils. Ça leur fait beaucoup de peine de parler de cette vie qui va à la dérive. La maman d'ailleurs commence à pleurer. Ils ont tout fait pour essayer d'aider leur enfant. Ils ont tout fait pour qu'il puisse se conduire d'une manière raisonnable dans la vie et qu'il puisse être un adulte qui s'assume. Et ils voient que leurs efforts ont échoué. Leur fils se drogue, se noie dans l'alcool, il mène une vie d'irresponsable. Au fil de la discussion, les parents expliquent qu'ils ont toujours tout donné. Comment maintenant ce fils peut-il prendre une telle voie? Ils ont toujours tout fait pour lui. Quand il a commencé ses études, ils lui ont donné beaucoup d'argent pour qu'il n'ait pas besoin de travailler en dehors des études et qu'il puisse consacrer tout son temps à ses études et puis encore avoir une vie sociale à côté. Et puis quand il était renvoyé d'un établissement scolaire et qu'il cessait d'aller en classe, eh bien les parents ont toujours tout fait pour trouver un établissement qui pourrait mieux lui convenir et correspondre à sa situation. Le thérapeute les écoute un moment et puis il leur dit « Mais vous savez, je crois que votre fils a raison. Il n'a aucun problème. » Puis les parents sont abasourdis, ils se disent c'est presque le ciel qui leur tombe sur la tête. Et ils disent « Mais est-ce que j'ai bien entendu? Vous pensez vraiment que notre fils n'a aucun problème ?» Puis le thérapeute le répond, mais non, votre fils n'a pas de problème. Mais vous, vous en avez. Parce que lui est libre à peu près de faire tout ce qu'il veut. Vous payez pour lui. Vous vous faites du souci pour lui. Vous dépensez votre énergie à lui faciliter la vie. Et lui n'a aucun problème. Il peut faire tout ce qu'il veut. Vous lui avez enlevé tous ses problèmes. Vous vous en êtes chargé à sa place. Puis le thérapeute pose alors cette question aux parents. Il leur dit, mais est-ce que vous aimeriez que je vous aide à lui rendre ses problèmes ? Et là, les parents commencent à comprendre. Et le thérapeute leur explique que la solution consiste à fixer des limites. Des limites pour que les agissements de leur fils posent des problèmes à lui et non pas à eux. Pour l'instant, le fils peut être satisfait, il n'y a aucune raison qu'il change de manière de vivre, puisque ses parents réparent toutes ses frasques. Il peut vivre confortablement, il n'a pas besoin d'étudier, il n'a pas besoin de faire des projets dans la vie, il n'a pas besoin de travailler. Poser des limites avec ce fils, c'est l'amener à devoir assumer des responsabilités. En fait, il y a un enseignement biblique fondamental qui dit que ce que nous récoltons, nous le semons, ce que nous semons, nous le récoltons. Et ce fils a désespérément besoin de faire cette expérience-là. Ce qu'il sème, il doit le récolter lui-même. Ça ne va pas que lui puisse vivre en irresponsable et être heureux, alors que ses parents sont responsables mais malheureux. Bon, les parents se disent, mais on vous entend bien, vous le thérapeute, mais est-ce que c'est quand même pas un peu cruel de cesser d'aider notre fils ? Et savez-vous ce que le thérapeute leur demande ? Est-ce que votre aide jusqu'à présent l'a vraiment aidé ? La question que nous pose cette histoire, c'est de savoir quelle est ma responsabilité ? Je suis responsable de quoi ? Les autres. Je suis responsable de moi-même. Nous sommes responsables de nos sentiments. Je l'ai dit tout à l'heure, si je suis en colère, c'est à moi d'assumer cette colère, de la surmonter, d'agir correctement par rapport à cela. La colère, elle peut traduire une difficulté relationnelle. Eh bien, c'est à moi de trouver les moyens d'y faire face et de trouver aussi les réponses à apporter. Je suis responsable de mes comportements. Ce que j'ai semé, il est normal que je le récolte. Si je travaille, il est normal que je reçoive un salaire à la fin du mois. Mais si je cultive la paresse, il est normal aussi que j'en recueille les fruits, c'est-à-dire la pauvreté, la misère, peut-être une vie de débauche. Sauf si quelqu'un vient m'empêcher de devoir en supporter les conséquences. Mais chaque fois que quelqu'un vient pour supprimer les conséquences, finalement, ce que cela produit sur la personne qui ne s'assume pas, c'est un être faible, un être qui n'est pas en mesure de faire face aux difficultés de la vie et à s'assumer pleinement. Quand nous réfléchissons aux limites, souvent on se dit, mais si j'ai un problème, c'est parce que l'autre vient empiéter sur mon territoire. Donc il faut que je fixe des limites aux autres, à ceux qui me font du mal. Mais en fait, vous n'arriverez jamais à changer le comportement des autres. Vous ne pouvez agir que sur vous-même et votre territoire. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous faire du mal, mais vous pouvez empêcher que ce mal vous atteigne. Vous pouvez vous protéger d'une mauvaise influence. Vous pouvez prendre de la distance. Vous pouvez apprendre à dire non. C'est pour cela. À nous séparer de ceux qui font du mal. Puis finalement, si vous voulez poser des limites, il vous faut apprendre à réfléchir. Il faut savoir corriger les idées qui sont fausses. Et parmi les choses qui peuvent être corrigées, Il y a notamment deux domaines. Il y a le domaine des désirs et le domaine de l'amour. Quelqu'un qui ne sait pas très bien où se termine sa vie et où commence celle des autres va avoir souvent des sentiments diffus, confus à propos de ses désirs. Il ne sait pas exactement ce qu'il peut désirer. Il ne sait pas vraiment ce qu'il désire vraiment non plus. Je prends l'exemple de personnes qui mènent, par exemple, une vie sexuelle débridée. Que désire-t-il au fond ? Mais je pense qu'au fond, ils désirent souvent de l'amour et de l'affection. Mais ils ne savent pas comment le gérer. Ils ne savent pas comment le vivre. Ils ont du mal à aimer et ils ont du mal à être aimés. Parce qu'aimer nécessite d'ouvrir son cœur, de donner la permission à quelqu'un d'entrer en partie chez soi, dans un acte consenti et pas dans un acte destructeur. Mais comme ils ont pu être blessés peut-être dans leur vie, ils ont peur d'ouvrir à nouveau leur cœur. Ils se ferment. Et comme ils se ferment, ils ne peuvent pas vivre un véritable amour. Et donc ils ont des sentiments et des désirs confus qui les mènent à cette vie de débauche. C'est une sorte de palliatif, si vous voulez, au véritable amour que Dieu aimerait nous donner. Celui qui ne se sent pas aimé ne peut pas juste rejeter la faute sur les autres en disant que c'est les autres qui sont responsables, parce que c'est à lui de s'ouvrir à cette capacité d'aimer. Pour le dire autrement, plus nous allons être forts intérieurement, plus nous allons être structurés intérieurement, plus on va avoir une vie intérieure équilibrée, plus nous saurons vivre avec des limites claires et mieux nous saurons aimer les autres. En fait, celui qui est bien au clair avec ce qui est de sa responsabilité, ce qui est de la responsabilité des autres, sera beaucoup mieux aimé en définitive que celui qui n'est pas au clair. Fixer des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est apprendre à aider les autres de manière saine et équilibrée. Quand je ne suis pas au clair avec mes limites, il y a beaucoup de chances que si j'aide les autres, j'entre mal dans leur territoire, je viole leurs frontières intérieures, je risque de devenir un manipulateur, ou je peux être peut-être insensible aux besoins des autres et je refuse ma responsabilité de les aimer. La notion de l'amour, du véritable amour, est au cœur de ce que je vous enseigne ce matin. Comment aimer sainement? Il y aurait beaucoup de choses à dire encore ce matin, je dois m'arrêter, mais je vous propose de continuer à réfléchir à cette problématique dimanche prochain. Et pour ce matin, vous dites peut-être, après avoir entendu tout cela, qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre pour vous. Ça vous fait peut-être peur. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai entendu? Il y a peut-être des éléments de votre vie où vous vous dites, mais là, je devrais pouvoir changer, vivre les choses autrement. J'aimerais d'abord vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas ceux qui ont compris et ceux qui n'ont rien compris. Nous sommes tous en chemin dans ce domaine. Nous n'avons pas tous le même héritage. Nous n'avons pas tous le même bagage. Certains ont eu le privilège de recevoir un bon bagage dans leur enfance, d'autres n'ont pas eu ce privilège. Mais nous sommes tous en chemin et nous avons tous la capacité d'apprendre. Ne faites pas reposer la responsabilité de vos problèmes sur les autres. Acceptons que le Seigneur nous parle ce matin pour nous dire « c'est à moi, c'est à toi, chacun pour lui, de prendre sa responsabilité, sa vie en main et d'agir ». Vous avez peut-être subi des choses difficiles dans votre vie, des traumatismes, dans votre enfance, dans votre jeunesse. Des traumatismes qui ont pu ébranler cette sécurité intérieure à laquelle nous sommes appelés, qui est bonne pour Dieu. Vous avez peut-être subi des choses difficiles dans votre vie qui vous font douter de la capacité d'être maître de votre vie, parce qu'à un moment donné, vous avez perdu la maîtrise de votre vie. Si vous avez vécu cela, j'aimerais vous dire ce matin que que le cœur de Dieu bat pour vous. Dieu vous aime. Dieu est là pour tous ceux qui passent par des difficultés et qui ont envie de s'en sortir. Écoutez ce qui est dit dans le chapitre 61 d'Ésaïe. C'est dit à propos de Jésus. « L'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus a montré le chemin d'une vraie compassion, d'un vrai amour. Jésus est là pour guérir notre cœur. Il est là pour nous amener dans la liberté. Il veut nous délivrer. Faisons-lui confiance. Approchons-nous de lui. Vivons pour lui et avec lui. Amen. Seigneur, nous venons encore à toi maintenant pour demander que tu diriges nos vies. Que tu viennes réparer ce qui a été meurtri, que tu viennes à la rencontre de ceux qui ont des fardeaux qui sont trop lourds, un sac à dos qui leur casse le dos, que là tu prennes le fardeau, Seigneur, et que pour les autres, pour nous tous, tu nous aides à vivre une vie responsable, à ne pas rejeter les problèmes de notre vie sur les autres. Et pour cela, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre comment changer et fais-nous la grâce de pouvoir grandir avec toi, avec l'aide de ton Esprit Saint. Amen.